Elles font 48 000 morts prématurées chaque année en France. Les particules fines, on en parle souvent, sont principalement produites par le trafic routier, dans une moindre mesure aussi par l'industrie et le chauffage. Mais en plein été, c'est bien la circulation automobile qui provoque les pics de pollution à l'ozone observés ces jours-ci à Paris, à Lyon ou à Bordeaux. Avec aussi ces autres particules dont on parle moins parce qu'elles ne sont pas prises en compte par les systèmes de surveillance de la qualité de l'air, les nanoparticules qui s'infiltrent dans le système respiratoire et pourraient être plus dangereuses encore que leur grande sœur. C'est en tout cas ce que souligne la dernière publication de l'ANSES, Agence Nationale de Sécurité Sanitaire, qui préconise en conséquence une réduction du trafic routier, seule façon d'améliorer de façon durable la qualité de l'air que nous respirons. Mais comment remplacer la voiture? Et les avancées technologiques, filtres à particules ou voitures électriques, ne sont-elles pas aussi des gages de progrès? Comment mieux prendre en compte dans ce domaine les réalités sociales et territoriales? C'est ce dont nous débattons ce soir avec nos invités. Guillaume Boulanger, responsable adjoint de l'unité en charge des risques liés à l'air à l'ANSES. Bonsoir monsieur.
Bonsoir.
C'est l'asphyxie générale qui nous guette?
Non, pas encore, mais il faut faire attention.
Avec nous également Jean-Luc Fugitte, député de La République En Marche du Rhône, président du Conseil National de l'Air, co-rapporteur du projet de loi d'orientation des mobilités que certains trouvent d'ailleurs un peu timoré. Hein. Vous allez nous dire
bonsoir.
Ce que vous en pensez. Bonsoir à vous.
Nous en parlerons.
En ligne également dans quelques instants, Pierre Chasseret, délégué général de l'association 40 millions d'automobilistes, qui lui n'est d'accord sur rien, ni les conclusions de l'ANSES, ni la circulation. Différencier, pollution de l'air, peut mieux faire. Le téléphone sonne, c'est jusqu'à 20h. Vos questions, vos témoignages, bien sûr, au 01 45 24 7000 et sur la boîte mail de l'émission.
Yves Decamp. Le téléphone sonne.
Et pour commencer, notre premier auditeur qui nous appelle de Clermont-Ferrand ce soir, Samuel. Bonsoir à vous, Samuel.
Oui, bonsoir, monsieur.
Nous vous écoutons. Bienvenue.
Alors, je voulais savoir, bonjour. Je voulais savoir pour vous avez il y a donc pour les voitures du coup là, pour l'instant l'air de jardin, on a trois possibilités. Soit on prend comme le diesel, donc qui rejette, comme vous l'avez très bien dit, des particules fines, donc qui sont néfastes pour la respiration, ou alors sinon on a recours donc à l'essence qui dégage énormément de CO2, rejette énormément de CO2 dans l'atmosphère, ce qui entraîne le dérèglement climatique que nous sommes en train de subir actuellement avec tous ces épisodes caniculaires. Mmh. Et on a également la voiture électrique qui, quand on la conduit, ne rejette pas de CO2, mais qui, pour sa construction, nécessite des batteries en lithium et qui, elles, sont par contre très, très néfastes pour l'environnement parce qu'on ne sait pas très bien comment recycler tous les métaux, et c'est aussi des métaux très rares et donc très... Voilà.
Et donc, il n'y a pas de bonne solution, c'est ce que vous voulez
voilà,
nous dire.
Voilà, c'est ça, il n'y a pas de bonne solution. C'est ça, ouais.
Merci à vous, Merci à vous, Samuel. Alors, Guillaume Boulanger, il n'y a pas de bonne solution?
Effectivement, la question est intéressante. Hein. Elle rejoint un des axes de notre expertise. À l'ANSES, nous avons conduit un exercice de prospective, c'est-à-dire que nous avons imaginé ce qui pourrait se passer en 2025 en établissant différents scénarios, c'est-à-dire que on généralise par exemple le filtre à particules sur tous les véhicules diesel d'ici 2025, ou on diminue fortement la vente des véhicules diesel au profit des essences. Donc on passerait de 60% de vente aujourd'hui de véhicules diesel à 5% en 2025, ou on renforce, on promeut les véhicules électriques et on diminue le trafic. Alors, on a fait des calculs très complexes pour savoir quelles étaient les émissions du parc automobile et des concentrations de particules. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit clairement que il y a une baisse non négligeable des émissions de particules quand on équipe tous les véhicules diesel de filtres à particules ou quand on met que des essences. Donc, ça va dans le bon sens. C'est un levier potentiel d'action. Donc, il faut encourager ce levier-là.
Mais
ça reste insuffisant pour améliorer durablement la qualité de l'air. Donc ça va dans le bon sens, mais nous on demande d'aller plus loin. Et typiquement, la seule solution viable, c'est de réduire le trafic.
Et les voitures électriques, si toutes les voitures sont électriques?
Alors les voitures électriques, en tout cas pour
il n'y a plus
d'émissions de particules à l'échappement. Et c'est important de préciser ce point-là, à l'échappement. Puisqu'il faut savoir qu'un véhicule, quand il roule, il émet des particules évidemment liées à son moteur thermique, mais aussi lorsqu'il freine, l'usure des freins crée des particules, génère des particules, également le roulement des pneumatiques ou une voiture qui roule remet en suspension des particules qui sont déposées au sol. Et c'est une très bonne remarque de votre auditeur, à savoir que ça pose d'autres questions sur le cycle de vie de la voiture, notamment les ressources en lithium pour construire ces voitures électriques. Donc nous encourageons vraiment à réduire le trafic et à encourager les transports en commun, les modes actifs comme le vélo, la marche à pied ou encore l'intermodalité, c'est-à-dire que évidemment tout le monde ne peut pas se passer de la voiture, c'est compliqué, mais en tout cas d'aller jusqu'à la gare en voiture, ensuite de prendre soit un transport en commun, soit son vélo, enfin voilà, de mixer un peu les modes de transport.
Alors justement, Jean-Luc Fugit, favoriser l'intermodalité, les transports alternatifs, c'est un petit peu l'objet de la loi d'orientation des mobilités.
Tout à fait. Oui, développer des mobilités plus propres et plus actives, plus partagées aussi, donc c'est un objectif.
Dans cette loi, il y a notamment, vous avez notamment acté la fin des véhicules à carburant fossile pour 2040. Pour beaucoup, beaucoup trouvent que c'est un peu loin 2040.
Oui,
on aurait pu faire plus vite.
Oui, j'entends bien. Certains trouvent aussi qu'il aurait été bien de ne rien faire. Donc, vous voyez, il y a peut-être un petit peu un juste milieu à trouver. Ce qui est certain, c'est que nous avons un constat de départ qui est lequel. Nous avons à la fois une problématique de CO2. Donc d'émissions de gaz à effet de serre importantes, dont le transport est un vecteur important, 30%. Et puis ensuite, nous avons un problème de pollution à la fois aux particules, vous l'avez rappelé, mais aussi aux oxydes d'azote. Et je note au passage que nous sommes là ces jours-ci en canicule et que donc nous allons avoir des problèmes d'ozone sur lesquels ne jouent pas les particules. Ce qui joue sur l'ozone, ce sont d'autres précurseurs qui sont les composés organiques volatiles d'une part, et d'autre part les oxydes d'azote qui, eux, sont fortement liés au trafic automobile. Et donc, il ne faudrait pas réduire toute la discussion autour des particules, le sujet est beaucoup plus complexe. En tout cas, nous avons un souci de pollution de proximité, qui est l'ozone, les particules, les oxydes d'azote, qui selon le moment de l'année, ne va pas être de la même intensité pour l'un des trois polluants. Et ensuite, nous avons le problème global.
Là, vous êtes dans le constat, oui.
Tout à fait. Mais justement, partant de ce constat, nous avons voulu inscrire dans la loi, dans des perspectives, notamment avec la neutralité carbone pour 2050, mais aussi l'objectif donc de faire en sorte de ne plus avoir de vente de véhicules d'ici 2040 à énergie fossile, c'est-à-dire véhicules neufs qui utilisent des énergies fossiles, aussi bien l'essence que le diesel. Donc l'idée, c'est d'aller vers cette trajectoire de réduction à la fois des émissions de CO2 et à la fois des polluants de proximité. L'idée, c'est de jouer pas sur l'un ou l'autre, c'est vraiment l'un et l'autre. Et nous avons tendance parfois dans le débat à confondre l'un et l'autre. Il faut jouer sur les polluants de proximité, qui sont véritablement l'impact sanitaire, donc ce qui nous impacte dans notre vie de tous les jours, et ensuite aussi sur le CO2 qui a un impact climatique. Et donc la loi d'orientation des mobilités, eh bien, elle fixe un certain nombre de trajectoires et de possibilités que l'on pourra détailler si vous le souhaitez.
Voilà, on y reviendra bien sûr. Tout de suite, un deuxième auditeur, c'est Jackie, donc, qui nous appelle de Nîmes. Bonsoir à vous, Jackie.
Bonsoir à France Inter, et bonsoir les invités et les bonsoir. Auditeurs. Pardon. Alors, dans ce grand débat, effectivement, ça fait quand même des années qu'on entend qu'il faut réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et puis Greta Thunberg vient de mettre un petit rappel, j'ai trouvé son intervention très intéressante. Alors, effectivement, on va dans le mur si on ne réduit pas rapidement. Et les émissions de gaz à effet de serre, effectivement, c'est la pollution. Et on continue, malgré tout, à vendre des voitures de 2 tonnes, des SUV, alors c'est la mode. 40% des ventes, des voitures 150, 160, 180, 200 chevaux, ça c'est la norme, 300 chevaux c'est bien, et au lieu de combiner la politique avec l'industrie, c'est-à-dire d'alléger les voitures, on continue une course vers l'avant et on dit autre chose dans les discours officiels. Alors effectivement, la réduction des gaz à effet de serre et notamment l'alternative à la pollution dans les grandes villes, c'est effectivement de réduire le poids des voitures. Il y a 40 ans, les voitures faisaient 800 kilos, elles faisaient 80 chevaux et on circulait bien.
Mais c'est-à-dire, Jackie, c'est-à-dire, il faut les interdire les SUV?
Bah, à l'évidence, écoutez, franchement, lorsque aujourd'hui on se déplace dans une voiture seule, une voiture de 2 tonnes, 2 tonnes 5, et qu'on voit la publicité à la télévision, et que c'est le bonheur absolu en plus, qu'on fait croire que ça c'est le bonheur, et que on va dans un mur, il faut quand même revenir un petit peu de raison. Et donc, moi, je pense que, comme disait Coluche, il suffirait que les gens arrêtent de l'acheter pour que ça se vende pas.
Voilà,
et on culpabilise les gens en disant que mais c'est à vous de faire des efforts. Mais en vérité, c'est les industriels et la politique.
Exactement.
Alors, est-ce que vous ne pensez pas que s'il n'y a pas une convergence entre la politique, les industriels, le monde de la finance, est-ce que vous pensez qu'on va sauver la planète?
Merci à vous, Jackie, pour ce témoignage. Effectivement, on ne revient jamais assez à Coluche, Guillaume Boulanger. Plutôt que de réduire le trafic routier, si on réduisait déjà la puissance des voitures.
Oui, c'est une solution qui est envisageable. Il y a une forme de logique à réduire les véhicules les plus puissants, puisque finalement ce sont eux qui émettent le plus. Ça c'est assez cohérent avec notamment les vignettes aujourd'hui critères, puisque les vignettes critères sont aujourd'hui basées à la fois sur l'âge du véhicule, la motorisation, donc voilà c'est cette logique là qui conduit à l'élaboration de ces vignettes et à l'utilisation de ces vignettes critères. Ce qu'il faut dire, c'est que aujourd'hui le parc de véhicules français, il est encore composé beaucoup de vieux véhicules diesel qui sont fortement émetteurs, et on sait que par rapport à, en comparaison à d'autres pays européens, le parc se renouvelle très lentement. Donc il y a sûrement un phénomène d'accélération à avoir déjà pour essayer d'éliminer les véhicules diesel les plus émetteurs. Et un autre point qui est important, parce que c'est le deuxième auditeur qui évoque ça, il faut savoir que jusque-là, il y avait une forme de bicéphalisme en essayant de distinguer ce qui relevait du changement climatique et de la pollution de l'air. Or, il y a des études qui montrent très bien qu'il y a une interaction claire entre la pollution, notamment particulière, mais pas uniquement, et le changement climatique. Le changement climatique augmente les températures et donc crée plus d'ozone en interaction avec les polluants émis par notamment le trafic, mais d'autres sources.
Jean-Luc Fugit, la prime à la conversion, c'est elle est destinée à ça, justement, renouveler
exactement,
plus vite le parc automobile.
Tout à fait. Elle a d'ailleurs, on remarquera au passage, très très bien fonctionné hein, en 2018 et même là en 2019, elle était au-delà même de ce qui était
budgétisé. Elle va baisser le mois prochain.
Elle va baisser. Disons qu'elle va être ciblée. Elle va pas baisser, mais elle va être plutôt ciblée sur un type de véhicule donc moins polluant, encore moins polluant, et surtout toujours rester au soutien des personnes aux revenus les plus modestes. C'est extrêmement important de le rappeler. Pour eux, elle ne baisse pas. On pourra toujours bénéficier jusqu'à 5 000 euros de primes donc pour accompagner le changement de véhicule pour ces personnes-là. Je voudrais rajouter au passage par rapport à ce que disait l'auditeur, un sujet très intéressant sur la taille des véhicules et le nombre de personnes que l'on peut transporter. C'est vrai qu'on est en moyenne à 1,08 et ça pose un problème. Mais la loi de renforcement de mobilité justement lance un certain nombre d'innovations pour favoriser le covoiturage. Le covoiturage notamment dans les transports domicile-travail, c'est extrêmement important. Il a aussi parlé de la publicité. Alors justement, en tant que rapporteur, j'ai fait inscrire dans le projet de loi. Donc l'idée que quand on a des publicités sur les véhicules, on puisse dorénavant obligatoirement assortir donc la publicité de messages donc publicitaires pour la mobilité partagée, les mobilités actives, donc c'est-à-dire le vélo, les transports collectifs, etc. Parce que certes, je suis d'accord avec l'idée que les industriels, les politiques doivent un petit peu prendre des décisions et faire avancer le pays, mais en fait c'est aussi aux citoyens, et ils nous interpellent d'ailleurs de plus en plus, de continuer à mettre un petit peu de pression d'une part, et d'autre part aussi à prendre des décisions à titre individuel, de se dire je décide de rouler avec tel ou tel type de véhicule plutôt que tel ou tel type de véhicule. Moi, dans mon cas, par exemple, je roule une petite voiture électrique et ça me suffit dans ma circonscription.
En ligne avec nous, Pierre Chasseret, délégué général de l'association 40 millions d'automobilistes. Bonsoir à vous, Pierre Chasseret.
Bonsoir, vous avez vu, j'ai pas fait d'attaque cardiaque en attendant.
Ah ben non, on n'a pas vu encore, mais vous allez nous expliquer ce qui aurait pu provoquer cette attaque. Qu'est-ce qui vous choque dans tout ce qui vient d'être dit?
Ce qui me choque, c'est la bienséance, le côté donneur de leçons et puis le décalage avec l'opinion. En fait, voilà, c'est ça qui me choque. On a l'impression que ça y est, on vient de découvrir qu'une voiture, ça pollue. Vous savez, une voiture, ça pollue. Par contre, ce qui est hallucinant, c'est que là, je suis tombé sur un papier récemment, plutôt intéressant. Hein. 94 bateaux de croisière égale 2 milliards 600 millions de voitures, soit 10 fois le parc européen en termes de pollution au soufre.
Mais c'est pas
mal.
Mais non, c'est pas parce qu'il y a pire que...
Non, mais c'est pas parce que... Non, mais... vous voulez rire, mais moi je vais un peu moins rire. Quand on est en région et qu'on a besoin de sa voiture, les trucs de bobo comme ça, un peu qui se décident dans les travers de l'Assemblée nationale, qui est quand même l'endroit où on a le plus joli parc automobile français. Hein. Moi je trouve quand je passe à côté ou quand je vais en rendez-vous à l'Assemblée, croyez-moi que j'en vois pas beaucoup des députés sur des vélos.
Mais les vignettes, pardon, mais les vignettes critères concernent les villes, hein, pour l'instant, les métropoles.
Bah, c'est fantastique la vignette critère, vous rendez compte, vous revenez aux véhicules élitistes, c'est-à-dire que pendant un temps, l'automobile était un outil de mobilité qui était réservé aux plus riches, puis il s'est démocratisé. On en est venu à avoir un parc auto où tous les Français pouvaient posséder leur automobile, et maintenant, on trouve qu'il y en a trop. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on la rend élitiste. Il n'y a que ceux qui ont des véhicules extrêmement récents qui ont le droit de rouler. C'est extraordinaire, non ?
Alors, Pierre Chasseret, cette étude de l'ANSES, hein, l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire, c'est une compilation de 160 études. C'est scientifique. Là, oui, les particules fines et ultra fines participent de la pollution de l'air. Elles en sont même les principales responsables.
Oui, et en même temps, les émissions particulières des véhicules ont été divisées par 1000 en moins de 10 ans. En fait, on regarde, il y a deux façons de regarder les choses. Soit on est un pessimiste né, on veut faire peur à la population parce qu'électoralement ça marche bien et on va vous expliquer que tout est catastrophique. Soit on regarde de l'autre côté et on regarde les progrès qui ont été accomplis. Moi, quand je vois que sur 10 ans, les émissions particulières des véhicules neufs ont été divisées par 1000, je me dis, on va quand même dans le bon sens. Tiens, je vais vous donner un petit exemple parce que ça m'a quand même marqué. J'étais sur un plateau télévisé, sur une chaîne d'information en continu. Et puis, j'étais face au candidat à la ville de Paris, Europe Écologie Les Verts, qui m'expliquait qu'on allait tous mourir, qu'on suffoquait et que c'était absolument fini pour tout le monde parce qu'il y avait des pics de pollution partout. Eh bien, il m'a expliqué que j'en avais rien à faire des morts de la pollution, rien. Sauf que quand il est sorti des studios de télévision, il a allègrement ouvert son paquet de cigarettes pour ensuite monter dans une magnifique C5 diesel. Donc, pardonnez-moi, mais moi, les donneurs de leçons bobos, vous savez ce que je leur dis. Je leur dis qu'ils aillent en région et qu'ils regardent véritablement ce qui se passe chez les
d'accord,
gens.
D'accord, mais les pics de pollution, là, auxquels on assiste ces jours-ci, on est en été, hein, ne vous allez pas dire qu'ils sont liés aux industries ou au chauffage.
Non, c'est un pic à l'ozone, mais vous savez, on l'a tous les ans, ce pic à l'ozone. Mais maintenant, ce qui est important, c'est de le faire disparaître. Comment il se provoque, ce pic ? Il se provoque notamment avec les émissions, particulièrement des diesels anciens. Sauf que ces véhicules diesels anciens, ils vont disparaître progressivement du parc, ils vont sortir du parc automobile. Ils sont remplacés par des véhicules qui sont infiniment moins polluants. Donc en fait, la qualité de l'air, moi je répète toujours ce chiffre et je passe pour un abruti à chaque fois, et pourtant, malheureusement, il serait bon qu'on cite les études et qu'on arrête de citer des politiques lorsqu'ils disent n'importe quoi. Les études de qualité de l'air prouvent que depuis 1990, et attention, quand je dis les études, toutes les études, celles du ministère de l'écologie, celles du CITEPA, toutes sans exception, prouvent que depuis 1990, partout en France, la qualité de l'air n'a jamais cessé de s'améliorer, sauf une année à un endroit, 2017 à Paris. Bon, 2018, ça va mieux. Mais 2017 à Paris, l'année de la fermeture des voies sur berge. Donc voilà, on peut continuer sans arrêt à faire peur à la population, à inviter une gamine de 16 ans pour faire de la communication à l'Assemblée nationale. La réalité, c'est que tout le monde a conscience qu'autour de nous, il y a de la pollution. Tout le monde a conscience qu'il faut faire des efforts. Mais les efforts sont faits. On n'a pas attendu les politiques pour que l'industrie automobile française et mondiale se mette enfin à comprendre qu'il faut réduire les émissions polluantes.
Restez avec nous, Pierre Chasseret. Guillaume Boulanger, une réponse ?
Oui, je crois que je vais rester sur le plan factuel et scientifique pour répondre à votre intervention. Peut-être dire quand même que les premières études qui ont été réalisées chez l'homme datent des années 90 et depuis 20 ans, le corpus de données ne cesse de se renforcer et montre un effet clair de la pollution atmosphérique, notamment des particules, sur la santé de la population. Donc on a mis en évidence, vous l'avez souligné, à travers une revue assez méthodique de plus de 160 publications et on a montré clairement un rôle sur notamment des particules ultra fines de taille nanométrique sur la santé cardiovasculaire, ça va de troubles du rythme cardiaque jusqu'à des accidents vasculaires cérébraux, des troubles respiratoires, donc ça va des bronchites chroniques à d'autres cancers du poumon, donc des choses assez graves. Et il y a même de nouveaux effets qui émergent dans les littératures, c'est-à-dire qu'il y a quelques études qui commencent à s'intéresser et à indiquer des effets sur la santé neurologique, donc notamment l'apprentissage des enfants. enfants et la santé périnatale avec des liens entre des particules notamment ultra fines et des faibles poids de naissance. Donc on a un corpus quand même assez conséquent qui tend dans le même sens et qui converge pour dire attention, il y a un effet...
Mais quand Pierre Chasseret vous dit que tout ça va en s'améliorant grâce aux avancées technologiques, les filtres à particules, etc.
C'est ce que j'évoquais tout à l'heure, à savoir que si on prend de manière rétrospective, vous avez raison de dire que, par exemple, en Ile-de-France, depuis un peu plus de 10 ans, les émissions de particules ont diminué de près de 30%. Donc, effectivement, il y a un effort important qui est fait sur les particules, notamment, et les différentes émissions des différentes sources, notamment le trafic, mais aussi d'autres sources. Mais il faut aller plus loin.
Mais ça
ne suffira pas. Et nos scénarios montrent qu'à un horizon 2025, il faut aller plus loin. Juste une précision quand même sur cette étude qui date de 2009 sur la pollution, soi-disant, donc soufrée où quelques bateaux, 16 je crois bateaux, correspondraient de manière équivalente à la pollution à tout le trafic au niveau mondial. Il faut savoir que c'est sur le soufre uniquement et que c'était un scénario prospectif où l'essence, ce qui est utilisé, en tout cas le pétrole utilisé pour les bateaux, est très riche en soufre. Il y avait une concentration de 4,5%. Maintenant, on est à 0,5%. Donc, il y a eu des évolutions. Et en tout cas, cette étude, elle conduit à nous dire que, effectivement, la pollution maritime est à prendre en compte. Et notamment, on a souligné le fait qu'il y avait très peu de données sur le lien entre la santé et la pollution maritime.
Oui, vous demandez qu'elle soit mieux documentée.
Qu'elle soit mieux documentée dans
cette même étude de l'ANSES. D'accord. Jean-Luc Fugit, une réaction également à
propos
de Pierre Chasseret.
Je crois qu'il faudrait être 3 heures d'émission pour pouvoir réagir un petit peu, prendre le temps d'expliquer. La pollution de fond. La pollution de fond, c'est une pollution qui, par son ampleur et sa constance, donc, nous touche tous les jours. Ce n'est pas les pics de pollution. Les pics de pollution, ils ont l'avantage de faire parler d'eux et d'éveiller les consciences. Mais ce qui nous pose problème, c'est la pollution de fond. Et cette pollution de fond, elle nous impacte tous, que ce soit les oxydes d'azote, que ce soit l'ozone, que ce soit les particules fines, etc. Je voulais faire une remarque. Peut-être que les décideurs politiques font tous des bêtises, mais quand même. En 2003, nous avions un été très chaud, vous vous souvenez, canicule, avec les mêmes températures que nous avons eues fin juin ou celles que nous avons maintenant. Et à température équivalente, nous avons des niveaux d'ozone moins importants. Pourquoi ? Donc, c'est pas la température le facteur. Alors, je précise à Monsieur Chasseret, avant qu'il ne m'accuse d'être un simple député, que avant d'être député, je suis un docteur ingénieur en chimie et docteur en pollution de l'air, donc je connais un tout petit peu les choses et je l'invite à lire mes travaux de thèse sur l'ozone, la formation et la destruction de l'ozone. Donc là, on va parler maintenant de manière très sérieuse. Cette formation et destruction de l'ozone, c'est un cycle. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé depuis 2003? On a tenu compte de ce qui s'était passé et on a des politiques pour réduire les précurseurs de l'ozone. L'ozone n'est pas un polluant que l'on émet directement. Je prends le temps un petit peu d'expliquer, sinon nos auditeurs vont rien comprendre. Et les particules ne jouent pas sur le cycle de l'ozone. En revanche, les oxydes d'azote émis par les véhicules, eux, jouent. Ainsi que les composés organiques volatiles.
On entend bien le chimiste, mais on aimerait entendre le politique.
Le politique, il vous dit que, justement, il vous dit quoi? Il vous dit que si à température équivalente entre 2003 et 2019, on a malgré tout des pics à l'ozone qui sont moins importants, c'est pourquoi? C'est pas la température, c'est justement parce qu'on a joué avec des décisions politiques sur la réduction des précurseurs. Et notamment, on a amélioré et pris des mesures, notamment ces derniers jours, pour réduire le trafic. Le trafic, ça se traduit par une réduction des oxydes d'azote. Par exemple, fin juin, sur l'agglomération lyonnaise, je suis élu du Rhône, j'ai parlé de l'exemple de l'agglomération lyonnaise, nous avons eu, lors de la mise en circulation différenciée, moins 10% de véhicules. Mais nous avons eu aussi, du coup, moins 6% sur le NO2. Et ces moins 6% sur le NO2, eh bien, c'est moins de participation à la formation de l'ozone. Donc c'est aussi ça. Et une petite remarque aussi, quand on nous parle des particules, les particules qu'on nous dit que ça a baissé sur 20 ans, etc. Mais les particules ultra fines, dont nous parle le rapport récent de l'ANSES, comme on ne les mesure pas de manière réglementaire depuis 20 ans, on n'a pas d'éléments de comparaison. Donc on peut affirmer des choses sur d'autres types de particules, et c'est tant mieux si elles ont diminué. Sauf que sur les particules sur lesquelles on n'a pas de données sur le passé, eh bien, ces particules ultra fines sur lesquelles il va falloir travailler, eh bien, là-dessus, vous voyez, nous avons besoin d'élaborer des connaissances pour pouvoir justement voir un petit peu comment on va pouvoir jouer avec les technologies, les évolutions, pour faire en sorte de diminuer leur impact. Parce qu'on ne les mesure pas, elles sont plus fines.
On va voir aussi nos systèmes de mesure.
Elles sont plus fines, donc elles impactent beaucoup plus la santé. Elles vont plus loin dans l'organisme, ayons ça en tête.
Bon, Pierre Chasseret, une réaction. Donc, vous voyez, on en revient toujours au même. La seule solution, c'est la réduction du trafic routier.
Mais Bah oui, forcément, puisque de toute façon, tout le monde s'entend et le micro est coupé, je peux pas réagir. Mais la réalité, c'est que, voilà, sur les chiffres que j'ai donnés qui sont très clairs, l'amélioration de la qualité de l'air, non. L'amélioration de la qualité de l'air, c'est un effort de tous les industriels. L'agriculture, c'est améliorer le bâtiment, c'est améliorer le chauffage, c'est améliorer tout, s'améliore l'industrie automobile aussi.
Oui.
Ben, voilà. Mais la réalité, c'est aujourd'hui d'arrêter systématiquement d'imaginer des restrictions, des interdictions, des obligations. On peut plus se lever un matin sans avoir une obligation ou une interdiction supplémentaire. Le problème, c'est qu'on n'est pas dans la vie des gens. Vous prenez des mesures qui sonnent très parisianistes, qui sont des mesures de ville, des mesures urbaines, et vous pensez pas que la France ne se limite pas à la couronne de Paris. La réalité, c'est que Paris, c'est pas Paris ou Lyon ne représente pas l'intégralité de la France.
Moi, j'ai une grosse partie rurale, monsieur.
Mais je me doute que vous avez une grosse partie rurale, donc vous savez très bien que votre véhicule électrique, on peut pas se le payer. Si vous avez une représentation locale et que vous connaissez vos administrés,
bien sûr.
Savez comme moi ce qu'ils vous remontent comme information. Vous savez comme moi qu'ils vous disent votre véhicule écolo, je le veux bien, mais j'ai pas les moyens pour.
Il y a aussi des aides, si je peux me permettre, des gens qui achètent des véhicules d'occasion électriques.
Lorsque vous voyez que le nouveau système qui va être appliqué à partir du mois prochain sur la prime à la conversion rejette des véhicules, tiens, je cite une marque, mais je pourrais en citer plusieurs, la Dacia Sandero, vous vous rendez compte? Elle est exclue du système parce qu'elle fait plus que 117 grammes de CO2. Non, mais est-ce que fondamentalement, vous avez les pieds sur terre lorsque vous empêchez les véhicules familiaux d'être vendus? Et la Sandero, on peut pas parler d'un véhicule familial dans lequel on met trois gosses, hein.
Bien, Pierre Chasseret, de toute façon, vous tomberez pas d'accord ce soir, hein, mais c'était pas l'objectif. Merci en tout cas d'être intervenu dans le téléphone sonne, Pierre Chasseret, délégué général de 40 millions d'automobilistes.
France Inter, le téléphone sonne. Vos questions au 01 45 24 7000 et sur les réseaux sociaux avec le hashtag Telson.
Pollution de l'air peut mieux faire, c'est le sujet ce soir du téléphone sonne. Et c'est Jean-Paul qui nous appelle de Grenoble. Bonsoir à vous Jean-Paul.
Oui, bonsoir. Je suis content de pouvoir vous parler et de m'adresser à tous les auditeurs. Parce que, excusez-moi, je suis un peu essoufflé. J'ai pas dormi de la nuit. J'habite Grenoble. J'habite dans une banlieue dortoir qui s'appelle Fontaine, qui est tout collé contre Grenoble. Nous vivons actuellement une période d'intense chaleur, également d'intense pollution. Alors, je rappelle un peu pour mémoire pour les gens, Grenoble, c'est une ville qui est gérée par un conseil municipal écologiste. Ce conseil municipal est en train totalement de piétoniser les rues de Grenoble, c'est très bien, il chasse les voitures du centre de Grenoble, mais en même temps, il a autorisé la rocade, ce qu'on appelle la rocade, ça s'appelle l'A480, c'est la rocade qui tourne autour de Grenoble, vous savez, autour de, dans la banlieue de Grenoble.
Une rocade, oui.
À passer à trois voies. C'est-à-dire qu'actuellement, nous avons des travaux de transformation de la rocade de Grenoble de deux voies en trois voies, afin que les véhicules qui ne passeront donc plus en centre-ville puissent passer dans la banlieue.
Et c'est quoi le problème?
Alors moi, mon problème, il est double. C'est que cette rocade, elle passe. Moi, j'habite dans cette banlieue. J'habite dans une petite banlieue. Excusez-moi de merde. Excusez-moi de dire ça, mais c'est pas péjoratif. C'est parce que j'y vis. Et on va avoir sous nos fenêtres cette espèce de boulevard périphérique parisien qui va passer sous nos fenêtres, d'une part. Hein. Et deuxièmement, ces travaux, pour ne pas déranger ces messieurs dames, les travaux ont lieu de nuit. C'est-à-dire qu'en ce moment, on crève de chaud. Il fait 40 le jour, il fait 26 la nuit.
Alors,
et on est obligé de fermer nos fenêtres parce qu'ils font des travaux le nuit pour créer une troisième voie pour amener plus de bagnoles sous nos fenêtres.
Jean-Paul, on va pas vous répondre sur la situation à Grenoble qu'on ne connaît pas et personne ici ne peut en parler. Mais de façon générale, sur ces politiques qui sont assez générales dans les villes aujourd'hui, on chasse effectivement la voiture, en tout cas, on la dissuade d'y venir en multipliant les espaces piétonniers, etc. Et on fait des rocades. C'est une généralité. Est-ce que c'est une bonne idée, une bonne solution, Guillaume Boulanger?
Alors peut-être pour répondre, et pour prendre l'exemple de Grenoble, hein, qui est un très bon exemple, puisqu'on sait que c'est dans une cuvette, et donc il y a une forte pollution particulière et qui a du mal à être évacuée. L'illustration, c'est qu'il y a différentes sources en plus. Il y a le trafic, mais il y a aussi le chauffage au bois. Il y a beaucoup de chauffage au bois. Mmh. Et donc, ça illustre bien que la pollution de l'air, pour rejoindre, si c'est possible, l'auditeur précédent, il faut s'attaquer à tous les fronts. Et donc, jouer à la fois sur la source trafic, mais aussi le chauffage résidentiel, l'industrie, et je l'oublie pas aussi, l'agriculture, qui peut être une source contributrice ou précurseur de particules. Donc, effectivement, il faut jouer sur toutes les sources. La question aussi, c'est la question de l'organisation urbaine d'une ville. Et on voit que c'est compliqué. Si on essaie de décentrer, par exemple, de ne pas mettre les écoles à côté des recadres, mais de les mettre plus loin pour avoir un air moins pollué, bah, il faut aller jusqu'à cette école. Donc on voit bien que c'est d'une complexité assez gigantesque.
Est-ce qu'il faut faire des recadres? Est-ce qu'il faut faire des déviations? On voit beaucoup de déviations qui se construisent en campagne.
Alors il faut, j'ai pas de solution idéale, hein, c'est du cas par cas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut éloigner les infrastructures routières le plus possible des habitations. Donc faire une rocade à proximité des habitations, c'est peut-être pas la meilleure idée. Mais effectivement, d'avoir des modèles, ce que j'ai dit tout à l'heure, de l'intermodalité, c'est-à-dire que peut-être éviter des rocades, mais d'avoir plus de transports communs à cet endroit-là, ou d'encourager d'autres modes de covoiturage ou de modes actifs.
Alors comment fait-on, Jean-Luc Fugit, pour encourager les transports alternatifs et l'intermodalité, comme on dit?
Oui, alors, dans le cas de Grenoble, on peut d'ailleurs au passage présenter l'idée qu'ils sont en train de travailler sur une zone à faible émission pour la mobilité, justement. Et j'en profite pour aller dans le sens de mon collègue là, de l'ANSES, qui dit en effet qu'il faut jouer à la fois aussi bien sur l'agriculture. Quand on s'attaque à la pollution de l'air, on a l'agriculture, on a l'industrie, on a le résidentiel, on a les transports. Quand on parle de la loi mobilité, évidemment, on va s'intéresser à la partie transport. Mais ça ne va pas dire qu'il n'y a que ça, bien entendu. Même si c'est un problème que beaucoup de gens ressentent au quotidien. Donc il faut favoriser l'intermodalité. Dans le cadre des zones à faible émission, il faut autoriser des expérimentations sur le covoiturage notamment, voire se poser la question de réserver des voies pour le covoiturage. Il faut repenser aussi de plus en plus, quand on le peut, il ne s'agit pas d'oublier évidemment un certain nombre de Français, les déplacements domicile-travail. Aujourd'hui, 50% de ces déplacements font moins de 8 km. Il y a peut-être des choses à développer. Je pense par exemple au vélo. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'il faut développer le vélo partout, que c'est obligatoire, etc. etc.
Mais on va vous traiter de vélo parisien, là.
Oui, je sais bien.
Ou lyonnais.
Vous avez vu l'accent que j'ai. Donc, oui. Donc, moi qui suis originaire de l'Aveyron, ça me fait un peu sourire. Donc, comment dirais-je? On a le plan vélo, on a un certain nombre de mesures sur le covoiturage, on a les zones à faible émission, donc avec un certain nombre de possibilités pour faire en sorte de mieux partager l'espace. Au fond, ce que je voudrais faire passer comme message, c'est qu'aujourd'hui, on n'est pas dans une logique de dire qu'on est contre la voiture, on est contre la pollution. On est contre cette pollution qui nous impacte tous les jours. Mmh. Et la voiture, les transports en font partie, comme en font partie l'industrie, l'agriculture, le résidentiel. Au dernier salon de l'agriculture, j'ai organisé une conférence en plein salon de l'agriculture sur la pollution de l'air et l'agriculture, parce que ça avance. Et au Conseil national de l'air, tous ces acteurs se retrouvent autour de la table. Et je vais vous dire une chose, c'est qu'on peut être optimiste parce que les consciences sont de plus en plus éveillées et tout le monde a envie d'avancer. Les agriculteurs me disaient par exemple qu'il y a 10 ans, c'était pas un sujet. Maintenant, c'est devenu un sujet. Réduire leur impact sur l'ammoniac, sur les particules, etc. Parce que pourquoi? Parce que toute personne, qu'elle soit dans l'industrie, qu'elle soit dans l'agriculture, qu'elle soit à titre individuel, collectif, etc., nous sommes tous à la fois victimes de la pollution de l'air, nous en sommes tous responsables, et donc nous sommes tous des acteurs. Alors, pour pouvoir faire changer les choses.
Justement, Jean-Luc Fugit, la ministre des Transports et de l'Écologie, enfin, ce sont deux mails, hein, deux auditeurs qui nous écrivent, en se demandant pourquoi Elisabeth Borne a finalement autorisé de fait le transport en camion des marchandises transitant de Perpignan à Paris, hein, le fameux train de Rungis, qui est à l'arrêt, donc jusqu'au mois de novembre. Hein, que dire de cette problématique du transport par camion qui va du coup, à contrario, se développer?
Alors là, sur le cas précis sur lequel vous exprimez ici, je suis d'accord avec vous que là, on a véritablement un problème. Et on ne peut pas continuer comme ça. C'est évident qu'entre Perpignan et Rungis, il va falloir rétablir le transport en train. Je sais que c'est une histoire donc de discussion qu'il y a entre les gestionnaires de Rungis et aussi la SNCF, une histoire de contrat que je ne connais pas, effectivement.
Et donc Albert, c'est vrai qu'il y a Albert un sujet. Albert nous dit, la ministre n'avait-elle pas les moyens de taper du poing sur la table et obliger la SNCF à faire le nécessaire?
Il faut aussi que vous posiez la question directement à la ministre. Je pense que c'est aussi simple. Hein. Donc moi, je préside au Conseil national de l'air et je ne m'occupe pas des affaires du ministère de la transition écologique et solidaire. Ce que je sais, c'est que nous avons une ministre qui est très soucieuse de tous ces sujets et qui est très sensible aux problématiques de la pollution. Sinon, je crois qu'elle ne se serait pas investie comme elle s'est investie dans le cadre de la loi d'orientation de la mobilité. Si on prend le temps un jour de regarder en détail ce qu'il y a dans ce projet de loi, vous allez voir qu'il y a de nombreuses mesures donc pour faire en sorte de réduire l'impact environnemental de nos transports en général.
Allez, un nouvel appel, Jacques, qui nous appelle de Rennes. Bonsoir à vous, Jacques.
Oui, bonsoir. Moi, c'est le problème des transports en commun dans le centre de Rennes, où il y a une rue assez étroite parce que les bus ne peuvent pas se croiser. Donc, il y en a à peu près entre 600 et 800 par jour qui passent là, dans cet endroit. C'est la place du Champ-Jacquet. Il y a 5 terrasses de café, les bus passent là. Ça fait quand même 800 bus diesel, alors qu'il y a des villes comme Quimper qui ont des bus électriques. Donc ça doit faire 30 ou 40 ans qu'Edmond Hervé a décidé que les bus devaient passer dans le centre-ville. Mmh. Et la pollution est infernale, bruyante et polluante. Alors c'est marqué sur les bus, c'est plus souvent, c'est plus rapide, c'est plus... On enlève les voitures pour mettre des bus à la place. Oui. C'est du diesel, c'est comme s'il y avait 800 poids lourds qui passaient dans un centre-ville, l'hypercentre.
Merci Jacques, merci de votre témoignage. Le problème, c'est pas que les bus passent au centre-ville, c'est qu'ils ne soient pas électriques.
Au biogaz.
Au biogaz, mais...
Au biogaz, c'est ce qui peut aider nos agriculteurs au passage.
Et pourquoi ça met aussi longtemps le renouvellement du parc
Ce sont aussi des choix politiques, hein. Et puis des choix politiques, le parc il existe, il y a aussi à la fois des choix, à la fois de la commande publique, donc prendre le temps de lancer ces appels d'offres, etc. Donc là, c'est typiquement des choix. Mais vous savez, sur ces questions-là, il y a aussi les questions d'urbanisme, en fait, on l'a un peu évoqué tout à l'heure, on l'a sous-entendu, en fait, il faut travailler vraiment de manière très transversale. À la fois sur les questions d'urbanisme, le plan de déplacement, les questions de choix pour notre mode agricole, ou même sur la question des déchets. C'est l'ensemble de nos politiques donc, qui doivent être traversées avec l'idée qu'on doit réduire l'impact environnemental de ce que nous faisons et qui doivent, sur lesquelles on doit toujours prendre la dimension pollution de l'air comme étant une dimension importante. Mais localement, quand vous avez des choix à faire, ben c'est sûr qu'aujourd'hui, si on peut privilégier l'électrique, ou l'électrifié en tout cas, les hybrides aussi, peut-être un jour l'hydrogène, on est en train de développer des choses sur l'hydrogène, on ne sait pas ce qui va se passer, hein. Dans la loi d'orientation des mobilités, on a mis une évaluation tous les 5 ans de toutes les technologies pour voir où nous en sommes, l'idée étant de faire en sorte de réduire la part des fossiles, mais on peut aussi penser au biogaz, pourquoi ? Parce que le biogaz, c'est beaucoup moins de particules, c'est 20 fois moins que le diesel par exemple, c'est beaucoup moins d'oxyde d'azote, et au passage, c'est aussi, quand je parle bien du biogaz, c'est pas du fossile, c'est du gaz avec des déchets agricoles, et donc c'est aussi une source de revenus complémentaire potentielle pour nos agriculteurs auxquels il faut penser.
Alors, question concrète qui nous arrive par mail, question de Jacques. Pourquoi encourager les automobilistes à changer de véhicule? Est-ce vraiment la solution? Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux, est-ce que ça ne bénéficierait pas à davantage de citoyens d'investir plutôt dans les transports collectifs?
Mais bon. Si
l'un n'empêche pas l'autre.
Mais si je veux me permettre, bien entendu, l'un n'empêche pas l'autre. Et puis, soyons très clairs, en milieu rural, le transport en commun, il y en a très peu. Justement, la loi d'orientation de mobilité, faire en sorte qu'il y ait des autorités organisatrices de mobilité partout, sur tout le territoire. Aujourd'hui, vous avez 30% de la population qui n'a pas une AOM. Et puis, surtout, parfois, en milieu rural, vous savez que le covoiturage est le transport en commun. Donc il faut aussi favoriser, c'est la raison pour laquelle d'ailleurs il y a des mesures autour du forfait mobilité pour encourager au covoiturage. Donc l'un n'empêche pas l'autre. Il faut réduire le trafic, mais il ne faut pas nécessairement réduire les voitures là où il y en a encore besoin. Il ne faut pas opposer les bassins de vie, il ne faut pas opposer le rural et l'urbain. Tout ça n'a pas de sens. Ce qui compte, c'est qu'on lutte tous, vraiment, et qu'on embarque tout le monde dans une lutte contre les problèmes de pollution de proximité et les pollutions globales qui impactent sur le changement climatique.
Alors, en essayant de se projeter un peu vers l'avenir, cette question de Christine, c'est pour vous, Guillaume Boulanger. Que dire des véhicules à l'hydrogène? Est-ce que c'est l'avenir?
Alors aujourd'hui, dans les scénarios que nous avons proposés, élaborés, on a plutôt réaliser une promotion des véhicules électriques parce que aujourd'hui il y a beaucoup d'incertitudes autour de l'introduction de ce type de véhicule sur le marché, c'est pas encore mûr, donc dans nos scénarios prospectifs on les a pas introduits. Maintenant ça peut être une piste envisageable
sur le long terme
voilà, mais en tout cas à hauteur de 2025 il est clair que l'introduction sur le marché sera encore mineure et faible, mais pourquoi pas c'est approfondir cette piste,
parce qu'on disait tout à l'heure avec le tout premier auditeur que le tout électrique c'était pas forcément une solution, non plus, d'un point de vue écologique.
Oui, puis pour la mobilité aussi longue distance, l'hydrogène peut être intéressant pour venir compléter justement la gamme. Hein. On peut penser pour les trains, pour les bus, etc. Au passage, quand même, attention, l'hydrogène, on va l'obtenir avec l'électrolyse de l'eau. Et si on le veut, l'électrolyse de l'eau, il faut que cette électrolyse de l'eau, elle se fasse de manière décarbonée. Donc, soit c'est de l'énergie d'origine renouvelable, voire nucléaire. Mais en tout cas, essayons de faire en sorte là aussi qu'il n'y ait pas de fossiles dans la chaîne.
Et ça rejoint le constat hein, que j'avais fait tout à l'heure sur les véhicules électriques, à savoir que ça peut être une solution, en tout cas pour l'émission de particules, à l'échappement. Mais attention, un véhicule, il émet aussi des particules lors de son roulement, lors de l'usure des freins, avec les pneumatiques. Et puis ça pose des questions plus larges sur ce qui a été évoqué là, le cycle de vie du véhicule à hydrogène. Donc, encore une fois, hein, c'est une palette de propositions et de solutions, mais la meilleure solution reste quand même, lorsque c'est possible, la réduction du trafic.
Et puis le véhicule électrique, il y a le problème des batteries.
Oui, à qui on peut donner une seconde vie.
C'est peut-être un problème qu'on découvrira à long terme, là aussi.
Mais ça l'est déjà sur la ressource et notamment le
lithium. Faisons confiance aussi à nos chercheurs. Hein. Je me permets de rappeler que la plupart des publications de recherche européennes sur l'hydrogène, par exemple sur les batteries, sont produites par des laboratoires de chercheurs ou d'anciens chercheurs français. Et donc, soyons aussi fiers de notre recherche, encourageons-la. Et elle peut nous offrir les évolutions futures de demain et des mobilités plus propres là aussi. On a vraiment d'excellents chercheurs en France sur ces sujets.
Jean-Luc Fugitte, député La République En Marche du Rhône, président du Conseil National de l'Air et co-rapporteur du projet de loi d'orientation des mobilités. Guillaume Boulanger, responsable adjoint de l'unité en charge des risques liés à l'air à l'ANSES, donc l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire. J'en profite pour préciser que le taux de pollution à l'ozone en Île-de-France sera encore plus important demain. Il pourrait atteindre un niveau compris entre 200 et 230 microgrammes par mètre cube. C'est très élevé ça, hein, Guillaume Boulanger.
Oui, c'est
l'air considéré de bonne qualité en dessous de 120 microgrammes par mètre cube. Donc effectivement, on sera très au-dessus. Merci à vous tous. Merci à Antoine Gomez et Théo Gomard qui étaient à la technique ce soir. Il est 20h sur France Inter.